Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Salut Michel.
Salut Catherine, j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige sur la glace du Centre Bell ce soir pour le retour de chez Weber.
Ouais, j'espère qu'il va toffer plus que deux matchs, hein, ce sera le fun.
J'espère qu'on va voir un petit peu de différence dans sa vitesse.
Ouais.
Parce que ce qui l'a ennuyé au cours des dernières saisons, c'est ses blessures aux genoux, puis à la cheville, peu aux pieds, là, on est obligé d'opérer deux fois. Fait que ça lui nuisait certainement beaucoup. J'ai pas l'impression qu'on va voir une grande différence ce soir parce que ce n'est qu'un retour au jeu. Peut-être que dans une dizaine de parties, on sera plus en mesure d'évaluer s'il bouge mieux qu'il ne bougeait lorsqu'il a été blessé il y a près d'un an, à 7 jours, à 10 jours près, là, jour pour jour. Mais ce sera intéressant de voir comment il va se débrouiller. Mais ce que je ne comprends pas, ce qu'il y a d'assez spectaculaire, c'est qu'il y a seulement qu'à Montréal qu'on doit trouver un joueur pour jouer avec une super vedette.
Ouais.
Une super vedette, Catherine, c'est supposé rendre ses partenaires de jeu meilleurs.
Ouais.
Mais là, à Montréal, il faut trouver un joueur qui va bien faire paraître chez Weber. Ouais, là,
c'est le monde à l'envers.
Au bout de nos surprises.
Ah, c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que tu veux?
C'est le monde à l'envers. Là, c'est David Schlemko qui joue avec Pavlenko. Il n'est pas capable de jouer 3 matchs de suite sans qu'il soit blessé.
Ben, je le sais. Fait
que ce qu'il faut avoir avec un gars comme Weber, c'est un gars qui est capable de donner de grosses minutes de jeu. Parce que Weber, tu vas l'utiliser peut-être 22, 23, 24, 25 minutes dans un match. Des minutes en désavantage numérique. Des minutes également en supériorité numérique. Donc, le partenaire en supériorité numérique, il ne joue pas. Mettons qu'on lui donne un 2-3 minutes durant le match en avantage numérique, lui, il voit pas la patinoire. Mais il faut qu'il soit capable au moins de te donner 20 grosses minutes. Et qui est capable de te donner ça? Il y en a pas tant que ça.
Ben,
et autre élément, il faut que tu aies un gars qui soit capable, qui soit extrêmement rapide et mobile pour profiter du fait que Weber l'est moins, pour compenser son manque de rapidité.
Ouais.
Ça va aider le Canadien, je te l'ai dit il y a quelques jours, ça va aider le Canadien dans le bas de la zone, près du filet, avec la présence physique de Weber. Mais pour le reste, il faut que quelqu'un bouge ses pieds très rapidement pour aller chercher des rondelles qui sont libres.
Oui, mais en même temps, Michel, en avantage numérique, ça va aider. Ça peut pas être pire. Son 30e, il se passe rien en avantage numérique. Au moins, tu as un gars qui est capable de contrôler le jeu, là.
Et ça va libérer quelqu'un d'autre sur la glace parce que là, les équipes sont pas folles. Ils vont se dire le Canadien va orchestrer son avantage numérique autour de Weber puis de son lancer. Donc, on va accorder plus d'importance à couvrir le joueur de pointe. Ça peut libérer quelqu'un à l'embouchure du filet. Tant mieux si ça fonctionne.
Ben, il faut.
Ça, on l'espère parce que le Canadien a désespérément besoin de support en avantage numérique, parce que là, on fait pas peur à personne.
Non, puis Michel, tu sais, on regarde le classement, tu me diras que c'est encore tôt dans la saison, mais tu ne peux pas te permettre actuellement d'y aller avec une séquence. C'est comme là, ils ont 4 défaites consécutives. Oui, tu me diras qu'il y a quelques points vu qu'ils sont allés en prolongation, mais tu peux pas te permettre aujourd'hui de faire 7, 8, 9, tu sais, partir sur une mauvaise séquence, parce qu'actuellement, le Canadien n'est pas en série au moment où on se parle.
Le Canadien n'est pas en série et il y a des équipes qui ont peut-être une meilleure formation sur papier que le Canadien, qui ne le sont pas non plus et qui vont tenter une poussée vers le haut. Donc, il s'agit de se retrouver rapidement. J'ai hâte de voir quel effet ça va avoir sur l'ensemble de la troupe. Parce qu'évidemment, on parle beaucoup du leadership de Weber. Là, il y aura peut-être la chance de l'exercer parce que depuis qu'il est arrivé à Montréal, il n'a pas eu la chance vraiment de prouver qu'il était un leader. C'est vrai que si tes performances sont affectées par des blessures, c'est dur de dire aux autres, suivez-moi. Donc, j'ai hâte de voir ce soir quel effet sera autant sur la glace qu'au niveau mental chez ses coéquipiers.
OK. Michel.
Eisner est parti.
Il est parti.
Mais acceptera-t-il de jouer à Laval?
OK. Je pensais que tu m'annonçais qu'il avait été réclamé. Il n'a pas été réclamé. Puis
Là, il est encore. Écoute, il est sur la corde à linge présentement, là. Puis là, tu sais pas si tu vas le rentrer. Le linge est-tu sec ou s'il est encore humide? Fait que là, il s'agit de savoir si Carl Eisner va accepter d'aller jouer pour Joël Bouchard à Laval. S'il s'en va là, pauvre lui, Il est aussi bien d'avoir le mental très fort, hein? D'avoir la dureté du mental assez dur. Parce que là, jouer dans la Ligue américaine alors que tu as passé dans ta carrière dans la Ligue nationale, c'est un moyen d'honneur. Ce qu'il y a de positif, c'est qu'il n'a pas besoin de déménager. Puis il va être toujours près de sa famille. Tu sais, un vétéran comme ça, là, qui est rétrogradé au rang mineur, je sais pas, tu joues avec une équipe dans l'Est, dont son club école est dans le Midwest ou encore en Californie, dans le East Coast ou dans la Ligue américaine, loin. C'est dur en tabarouette parce que tu fais tes bagages, tu vois pas les enfants, ça s'ajoute à ton ego qui est frappé, puis tu te démoralises rapidement. Sauf que là, il peut aller coucher à la maison à tous les soirs s'il veut. Il va avoir un petit peu de difficulté à faire de l'autobus parce qu'il y a des vieilles peintures là, dans l'autobus alors qu'il est habitué de voyager en première classe. Tu vas voir que ça, c'est difficile à accepter. Mais est-ce qu'il va accepter son sort? C'est beau de dire que c'est un bon professionnel, puis il y a tout de suite les bonnes choses, même s'il ne joue pas. Tant que tu es dans le gros club et tu vis des conditions de première classe d'une équipe professionnelle, c'est pas comme te retrouver dans les rangs mineurs.
Non, ça,
moi,
c'est
j'ai
clair.
Hâte de voir la suite du dossier.
Mais Michel.
Parce que le Canadien ne peut pas le racheter, là.
Non.
On doit attendre au mois de juin. Tout ce qu'on peut faire, et je suis certain que Marc Bergevin essaie de le faire, c'est de l'échanger. Parce que les règles permettent maintenant à une équipe de retenir jusqu'à 50% de son salaire lorsqu'on l'échange. Mais est-ce qu'il y a un directeur général assez fou de voir que Eisner a perdu toute sa vitesse pour aller chercher pour 3 millions de dollars par année? Il va falloir que quelqu'un soit mal pris en maudit.
Mais ce que ça relance là, comme sujet, c'est les signatures le 1er juillet. Là. Évidemment, dans la Ligue, il y en a eu quelques-unes des signatures qui ont été bonnes pour certaines équipes. Mais je serais curieuse, Michel, si on faisait un bilan, là, on sortait, mettons, dans les deux dernières années, les signatures du 1er juillet, là, les joueurs qui ont vraiment eu de l'impact, pas sûr qu'il y en a tant que ça, Michel. Pas sûr.
Non, il y en a pas beaucoup. Et de toute façon, les joueurs qui se retrouvent joueurs autonomes le 1er juillet, il y a plusieurs années, il y avait des joueurs qui étaient au sommet de leur art. Mais tous les jeunes joueurs, les équipes les ont signés pour 6, 7, 8 ans.
Ouais.
Fait que il y en a pas. Regarde la qualité des joueurs sur le marché des joueurs autonomes. Au cours des dernières années, il y a eu John Tavares cette année, là. Mais dans l'ensemble, t'en avais toujours 7, 8, 9, 10 qui avaient de l'allure. C'était excitant le 1er juillet. Mais maintenant, là, il y a un paquet de chaudrons qui sont disponibles le 1er juillet.
Ben, c'est ça.
Les casseroles, t'es capable de t'en acheter toute l'année. Pourquoi tu paierais de gros prix? Attends le Black Friday ou le Cyber Monday ou le Boxing Day. Va pas payer ça le 1er juillet.
T'as bien raison. Hey, Michel, on va terminer sur le dossier de Ron Hextall. C'est drôle parce que moi, à chaque fois que je le vois, je le vois sur la glace à l'époque en train de frapper quelqu'un avec son bâton ou l'enrager. Était-il comme ça, comme gestionnaire? Non?
Pas du tout. Lui, là, son mentor, c'était Dean Lombardi chez les Kings de Los Angeles. D'ailleurs, c'est Lombardi qui lui a donné sa première chance comme gestionnaire dans la Ligue nationale. Lui, il avait compris. Il dit, écoute, les championnats ne s'achètent pas. Il faut repêcher, bien développer, être patient, puis éviter de commettre des erreurs sur le marché des joueurs autonomes. Parce qu'à Philadelphie, c'est les erreurs que son grand boss, Paul Holmgren, a commises lorsqu'il était directeur général. Puis là, lui, il avait une toute autre approche extérieure. Il est allé chercher un coach qui était issu des rangs collégiaux avec les Fighting Sioux de North Dakota, l'un des meilleurs programmes du hockey collégial américain. C'est comme si on donnait une chance à un coach de hockey junior. On a donné une avec un coach de la NCAA. Puis ça faisait pas l'affaire des Flyers. Et il a refusé. Ce qu'on raconte, c'est qu'il a refusé de congédier Dave Haskell parce que c'était son homme et ça allait à l'encontre. Contre ses principes de prendre son temps puis de développer. À Philadelphie, on a dit, on veut pas ça, on veut des résultats tout de suite. On a sacré Hextall dehors à part, puis là, on va tenter de se trouver un nouveau GM. Hey, on n'est pas patient cette année, ça fait quatre coachs.
Non, je sais, hein, c'est un feu roulant.
Un directeur général à cette période-ci de l'année. Un GM, ça se trouve pas de même, là. Il y a peut-être des candidats, mais là, on dit que Hextall n'en a pas pour longtemps, puis on parle de Joel Quenneville. Mais moi, Joel Quenneville à Philadelphie, je vois pas ça. Parce que Holmgren est trop proche. Il est trop proche du vestiaire, il est trop proche du directeur gérant, trop proche du coach. Et Quenneville aime pas ça avoir son boss dans ses culottes.
Bon, parfait. Ça, c'est
moi,
clair.
Je pense que si Joel Quenneville décide d'aller coacher cette année, je vais te dire la destination.
Vas-y.
C'est en Floride.
Ah oui?
Écoute, là, regarde la position au classement des Panthers qui sont plus bas que le Canadien. Ouais. Il y a un paquet de joueurs talentueux, puis encore une fois, ça part mal cette année, puis ils vont se retrouver, puis ils vont manquer de temps à la fin de la saison.
Ouais,
ils ont besoin d'un coach avec une structure puis avec une pointe de fer, et Dale Talon a une historique avec Joel Quenneville.
Les deux
ont travaillé ensemble, puis ils ont gagné à Chicago.
Okay.
Alors, moi, si j'étais à la place de Dale Talon, puis j'étais à la place du propriétaire des Panthers, je me disais, ouais, on n'est pas pour manquer encore avec les playoffs, avec 7-8 jeunes joueurs vedettes dans mon organisation. Qu'est-ce qui marche pas?
Ouais, c'est un bon point. OK, on verra la suite des choses.
Puis écoute, là, il n'y a pas de tempête de neige en Floride comme à Chicago.
Ouais, bien là, nous autres, on est dedans, là.
Il aimerait bien ça.
Ouais. On va se laisser là-dessus, Michel, justement, il faut que j'aille parler de l'état des routes. Je te souhaite une belle journée. On se reparle demain à la suite du premier match de chez Weber.
Sois prudent.
Ah oui, toujours. Salut, Michel.
Bye-bye,
7h49.